Bac FM, il est 10h33, on est le mercredi 18 septembre et on est parti comme tous les mercredis pour votre rendez-vous ciné sur Bac FM Action.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Et bienvenue, si vous nous rejoignez, on est en direct, il est 10h30, vous pouvez aussi nous écouter peut-être en rediffusion, cette émission est rediffusée tous les mercredis à 18h également, vous rentrez peut-être du taf et vous nous écoutez, bienvenue sur Bac FM, on parle cinéma tous les mercredis avec encore un beau programme aujourd'hui, Manuel va arriver dans quelques instants par téléphone pour nous parler d'une info qu'il a retenue et puis d'un film aussi qui sort cette semaine et puis Letty est avec moi à travers la vitre, salut Letty.
Salut Théo.
Ça va?
Ça va très très bien, d'autant que je vois qu'on a une émission bien fournie aujourd'hui.
Ouais, chargée, hein, cette émission aujourd'hui. J'ai le petit programme devant moi. Alors, il y a ton film du grenier, bien sûr, qui arrive dans quelques instants. En fin d'émission, Letty, Le Monde à l'envers. Ça, c'est l'avant-premier événement du cinéma Mazarin avec la présence du réalisateur Nicolas Vanier. On va avoir un gagnant aussi par téléphone tout à l'heure. C'est la nouveauté de cette émission, de ce rendez-vous tous les mercredis. Bac FM, en partenariat avec le cinéma Mazarin, vous fait gagner votre place de ciné chaque semaine. Vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Bac FM et Facebook. On en reparle bien sûr. Manuel nous parle donc d'un film avec Agnès Jaoui, les sorties ciné et les infos avant, bien sûr, pour commencer tout de suite Letty Jingle.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Et les nouvelles sont bonnes, Letty, on va commencer ces infos avec toi qui nous propose une double dose de Stephen King.
Exactement,
ce matin.
Avec deux petites infos. Alors la première, c'est la consécration dimanche du film The Life of Chuck au Festival International du Film de Toronto.
Ouais.
The Life of Chuck, c'est la dernière adaptation en date d'une œuvre du King au cinéma. Et il a donc remporté ce week-end le prix du choix du public et c'est le prix le plus convoité du Festival de Toronto pour la simple et bonne raison que c'est souvent annonciateur des Oscars.
Ouais, voilà. C'est un bon avant goût déjà de ce qui peut se passer. Ouais.
Exactement. Alors c'est un film qui a été réalisé par Mike Flanagan, hein, c'est un nouveau maître de l'horreur à qui on doit entre autres le film Doctor Sleep qui est déjà adapté de Stephen King ou encore l'excellente série The Haunting of Hill House, ouais. Là j'arriverai jamais à la dire, qui en a terrorisé plus d'un. Et le film The Life of Chuck, c'est l'adaptation de la nouvelle du même nom qui est parue en 2020 dans le recueil Si ça saigne. Et le film raconte en fait en trois chapitres la vie d'un homme ordinaire qui s'appelle Charles Kruntz, mais en commençant par sa mort à l'âge de 39 ans et en terminant par son enfance dans une maison prétendument hantée, le tout sur fond de catastrophes naturelles et de fin du monde inéluctable. Et selon la presse américaine, il s'agit d'une des meilleures adaptations de Stephen King de tous les temps au cinéma. Alors moi j'ai hâte de découvrir ça. Maintenant on attend de connaître sa date de sortie à ce film.
Ouais, c'est pas encore annoncé?
Pas encore annoncé, non mais ça devrait pas tarder là, c'est imminent. Mais bon c'est pas grave, hein. Les fans de Stephen King ils auront de quoi patienter parce que cette fois ça y est, c'est sûr, la nouvelle adaptation du roman Salem's Lot va arriver sur la plateforme Max et c'est prévu pour le 3 octobre. Donc
okay.
C'est très bientôt. Et moi j'ai envie de dire enfin, parce qu'on commençait à plus y croire tant ce projet commençait à prendre des airs d'arlésienne. Hein. C'est un film qui avait été annoncé en production dès 2019. Il devait à l'origine sortir en salle et puis sa sortie a été repoussée une première fois suite à la crise sanitaire en 2022, puis en 2023 et en 2024. On s'est dit bon, ils vont nous le repousser en 2025.
Ouais.
Mais non. On est resté longtemps sans avoir ni date ni aucune bande-annonce et il a fallu attendre cet été pour être définitivement fixé sur le sort du film. Alors il va pas passer par la case cinéma, ça je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais pourtant...
Ouais, parce qu'il faut avoir la plateforme hein, du coup pour pouvoir le voir.
Ouais, faut avoir la plateforme. Et puis, est-ce que ça va pas être du téléfilm amélioré? Voilà, c'est ça qui me fait un peu peur.
Ouais.
Même si la bande-annonce qu'on a enfin pu découvrir la semaine dernière, elle est plutôt alléchante. Alors, faut savoir que Salem, c'est un des romans les plus terrifiants du maître
de
l'horreur. C'est un film de vampires.
D'accord.
En fait, dans ce livre-là, Stephen King, il s'attaque au mythe des vampires, mais avec une revisite d'un Dracula dans l'Amérique des années 70, si tu veux. Et alors, moi, j'ai adoré le roman, j'en suis totalement fan. Et ce qui était un petit peu frustrant, c'est que ce livre paru en 75, il avait connu que des adaptations en téléfilm.
Okay.
Il y en avait une en 79.
Donc avec des déceptions plutôt.
Alors celui de 79 était quand même pas mal. Hein. C'était presque du film. Il faut dire que le réalisateur, c'était Toby Hooper, donc le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Et puis il y en avait une plus récente en 2004 avec Rob Lowe parmi les acteurs. Celui-là, bon, il était moyen, il était transposé maintenant, alors que là, ce qui va sortir reste dans le milieu, enfin dans l'époque 70s. Donc les attentes sont très très fortes concernant cette adaptation de Salem en long métrage.
Sorti pour quand ?
Le 3 octobre, on va avoir le verdict très bientôt.
Tu vas faire partie des personnes qui vont le regarder, Letty ?
Ah ben, j'attends ça avec impatience.
Et on a hâte que tu nous racontes tout ça, du coup, dans Action, ça fera partie de tes infos, le retour de Letty. Alors moi aussi, j'ai pas mal d'infos, c'est un petit pêle-mêle. Ouais, petit pêle-mêle d'infos ce matin pour moi, commencer avec Beyoncé qui donne son film préféré et puis son avis, bah forcément il compte à Beyoncé.
Ah bah oui,
bah, et plus
la
que
Queen
d'autres.
Bee.
Et évidemment, c'est dans une récente interview qu'elle a accordée à GQ que la reine de la pop a révélé ses coups de cœur culturels du moment et parmi eux, du coup, bah, son film préféré 2024. Est-ce que t'as une idée, Letty, par exemple?
Alors qu'est-ce qu'elle a pu aimer
C'est un film d'animation, je te donne un indice.
Vice Versa 2.
Ouais, bien joué, ouais, c'est ça, exactement. De quoi donner, bah forcément un joli coup de feu au film maintenant en VOD parce qu'il n'est plus au cinéma, bien sûr, surtout aux États-Unis. Il va sortir maintenant en VOD, ça va donner un joli coup de fouet donc à ce film Vice Versa 2. Et puis on continue aussi avec un coup de gueule pour un succès inattendu.
S'il vous plaît.
Oui.
Kaizen, le documentaire d'Inox Tag triomphe sur YouTube avec plus de 20 millions de vues, mais aussi en salle. Et c'est vrai que ça rend des gens pas contents du tout. L'ascension de l'Everest, du créateur de contenu, a attiré plus de 340 000 spectateurs en 2 jours. C'est énorme. Le film, il va même être diffusé sur TF1 le 8 octobre prochain, alors qu'il est déjà dispo sur YouTube gratuitement. C'est un choix assez étonnant de TF1 de le diffuser. Alors, ce sera en deuxième partie de soirée. Hein. Ça explique peut-être pourquoi, parce qu'il est déjà gratuit sur YouTube, mais ça permet aussi à un public qui n'est pas forcément habitué à la plateforme YouTube de pouvoir le voir plus facilement. Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, et bien il grince des dents, lui, après ce passage-là au cinéma de ce film L'Everest. En fait, Olivier Henrard, c'est le directeur général délégué qui explique tout simplement que le distributeur du film, MK2, a clairement et volontairement, d'ailleurs, dépassé la limite des 500 séances. Et c'est un enjeu qui pèse lourd, hein, forcément, dans la balance de la profession qui souffre déjà de la concurrence des plateformes. La chronologie des médias, elle est en fait pas du tout respectée. À côté de ça, eh bien, les gens, et principalement les jeunes qui étaient présents au cinéma pour le film, ont vu des bandes-annonces d'autres films. Et ça peut forcément les inciter à venir justement voir ces films en question. En fait, il y a des arguments de chaque côté de la balance et des arguments qui sont plutôt assez forts. Ce qui est sûr, c'est que vendredi, au cinéma Mazarin, eh bien, les salles de projection, elles étaient pleines. Ça, c'est assez impressionnant. Je sais pas, Letty, si t'as vu passer ça, les salles du cinéma Mazarin sur les 2 jours pour Kaizen, qui était rempli à foison.
Oui, c'était très 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 rempli et moi j'ai entendu de la promo vraiment partout sur les plus gros médias.
Ouais, c'était assez fou, hein, franchement. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est ce que j'expliquais, voilà, il y a des pas contents, il y a des contents. En fait, ce qu'il faudra voir, c'est comment YouTube va savoir évoluer avec le cinéma, comment le cinéma va réussir à s'adapter aussi avec ce nouveau désir aussi et cette nouvelle plateforme. Ça, ce sera à voir pour la suite. Et puis pour terminer, j'ai une bonne nouvelle, Kaamelott est de retour.
Est-ce que vous préparez un sale coup ?
Comment ?
Est-ce que vous préparez un sale coup ?
Un sale coup, comment vous voulez dire ?
Non.
Mais non quoi ?
Merci.
Non, c'est pas un sale coup, hein. Loin de là, même après avoir réuni plus de 2 600 000 spectateurs en salle, Kaamelott devrait bien faire son retour au cinéma, une suite qui est imaginée par Alexandre Astier, pardon, qui réserve déjà quelques surprises, une suite en 2 suites, enfin, deux films à venir, donc en fait, pour cette suite, la sortie, elle pourra arriver en 2025, et pour sûr, au ciné Mazarin, bien sûr, on va parler de ces sorties ciné du Mazarin, qui feront partie, forcément, la deuxième épisode de Kaamelott qui fera partie de ces sorties au Mazarin, ça on en est sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite, on va parler de ces dernières infos, c'est Manuel qui va nous en parler, on le retrouve au téléphone tout de suite.
Oui, bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous.
Comment ça va ?
Bah, très bien, en cette rentrée donc cinématographique et culturelle, voilà, toujours fidèle au poste et prêt donc à proposer quelques éclairages donc sur les sorties et sur l'actu du 7e art.
On est très heureux de te retrouver, Emmanuel, ici dans Action. Juste avant de revenir sur l'info que tu voulais évoquer, je ne sais pas si tu as entendu de quoi j'ai parlé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avis surtout sur la projection de Kaizen, le documentaire d'Inox Tag. Déjà, est-ce que tu l'as vu ?
Alors, non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelques reportages consacrés justement à l'événement et à sa sortie dans 500 salles. J'ai vu aussi des images de l'avant-première qui a été réalisée au Grand Rex avec la crème des youtubeurs qui étaient venus pour le voir. Ça a été vraiment un événement. Et puis, micro-trottoir qui était réalisé donc à la sortie. Beaucoup de jeunes, bien sûr, hein, c'est vraiment les jeunes spectateurs qui ne vont pas forcément au cinéma, mais qui, par le biais des réseaux, des différentes plateformes, donc étaient au courant. Donc, moi, je vois un côté positif, c'est que ça amène
du nouveau public. Ouais, tu trouves que c'est bien, ouais. Ouais.
Voilà, ça amène de nouveaux publics, c'est un format cinématographique. Après, qu'un film tourné pour YouTube soit projeté au cinéma en salle, ça nous renvoie à la discussion autour de Netflix. Netflix qui, en France, ne peut pas proposer des films directement en salle. Il faut d'abord que, voilà, c'est pas possible. Ils font souvent des sorties directement sur les plateformes, alors qu'aux États-Unis, c'est possible pour des raisons techniques. Donc, c'est en fait le cinéma, le 7e art. Il y a le CNC qui en organise le fonctionnement. Donc voilà, après c'est des questions de droit et puis aussi de faire en sorte que le cinéma, les films de cinéma doivent être projetés dans des salles avant tout. Bon après là c'est la dimension d'un événement exceptionnel, c'est le cas. Moi je pense pas qu'il faille être opposé.
Réfractaire de trop, ouais, bien sûr. Ouais.
Non, plus il y a de gens qui vont au cinéma, plus il y a de spectateurs, et notamment, on sait que le cinéma a besoin de jeunes spectateurs pour le renouvellement des générations,
ouais.
Et meilleur c'est, de mon point de vue. Ouais,
et puis, dans un autre délire, mais un petit peu similaire quand même, c'est l'arrivée d'une série télé au cinéma avec Kaamelott. C'est un carton pour le premier volet, qui en plus était sorti dans une période Covid, donc qui n'était vraiment pas simple. Il y a deux nouveaux films qui sont annoncés pour une suite en deux films. Le premier, est-ce que tu l'avais vu et qu'est-ce que tu en avais pensé ? C'était des avis qui étaient quand même plutôt positifs pour cette arrivée de Kaamelott au cinéma.
Bon, déjà, moi, je ne suis pas un fan de la série télé. Hein, faut déjà vous le dire, peut-être un peu à contre-courant. Voilà, je trouve ça a été un phénomène. Ça a trouvé un public télévisuel assez phénoménal. Voilà, je suis un peu resté rétif, même si je sais qu'Alexandre Astier et toute sa bande, et en plus nous dans le Dauphiné, ici, pas très loin de Grenoble, on a Serge Papagali qui est un petit peu un de ses acteurs fétiches
ouais.
qui fait le chef des paysans un petit peu révoltés, des rebelles avec cet accent du Dauphiné. Donc voilà, bien, mais moi pas spécialement client et pas spécialement fan. Après, le porter au cinéma, c'est toujours l'exercice est toujours compliqué, c'est-à-dire retrouver à la fois les fans et les fidèles de la série télé, mais aussi proposer donc une œuvre cinématographique. Donc voilà, le premier volet était plutôt pas mal. Il a d'ailleurs bien marché au cinéma. On va retrouver donc le deuxième volet qui sortira en diptyque, hein, puisque la partie 2 sera en 2. Voilà. Écoute, affaire à suivre. Je sais que le tournage s'est terminé en Dordogne là le 5 septembre dernier. Il y a d'ailleurs le propriétaire du château qui a appris par le biais du communiqué de presse du conseil régional de Dordogne que c'était le film Kaamelott. Ça n'avait été pas précisé dans
le contrat de location. Oui, il ne le savait pas. Ouais.
Il n'était pas au courant. Voilà, c'est un château quand même qui a une belle réputation cinématographique puisque des scènes importantes du Pacte des Loups avaient été tournées aussi là-bas. Donc voilà, beaucoup d'ingrédients qui vont faire en sorte que cette alchimie retrouve le succès. Je pense que ça devrait marcher, ça devrait fonctionner avec, comme je le disais, les différents publics qui vont aller voir. Et puis il y a aussi des fans d'Alexandre Astier, tout simplement. Hein,
ouais, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr.
De manière quasi religieuse et avec une grande fidélité.
Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai. Alexandre Astier qui a une fan base qui est assez impressionnante. Toi, Manuel, tu voulais évoquer Chad McQueen. C'est le fils de l'acteur de légende Steve McQueen. Il est mort à l'âge de 63 ans. Tu voulais dédier ces infos à lui.
Oui, effectivement. Alors, il souffrait d'une insuffisance d'organes depuis une mauvaise chute en 2020. Et ce qui a conduit à son décès. Et voilà, il est mort bien sûr bien trop jeune. Il était né en 1960, le 28 décembre, en Californie, à Los Angeles. Et alors, il est surtout connu au cinéma pour son rôle de Dutch. C'était aux côtés de Daniel LaRusso, qui interprétait Daniel LaRusso, ouais. Incarné par Ralph Macchio dans les films Karate Kid aussi. Ça, c'était dans les années 80. Et puis, ensuite, il a joué dans Chasse à l'homme, c'était en 1992, et dans La Lune rouge de Terrence Malick. Ça, c'est un film plus connu, c'était en 1996. Alors, il était, c'est pour la petite histoire, Théo, il était un petit peu comme toi, passionné de voitures depuis l'âge de 10 ans. Et il a fondé en 2010 le McQueen Racing.
Ah oui.
Voilà, et c'est une entreprise qui construisait des bolides, des voitures et des motos de course. Et comme le précisent ses enfants, il leur a transmis cette passion qui était celle de leur grand-père. Et
ouais, génération en génération. Ouais.
Voilà, et qui continue à vivre avec intensité. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à la fois aussi à Steve McQueen, cet acteur bien sûr légendaire, qui avait, il faut le rappeler, puisqu'on parlait de série, qui avait commencé dans la sur le petit écran en noir et blanc. Ça ne nous rajeunit pas et c'est pour quelques générations un petit peu, on va dire, anciennes aujourd'hui. C'était dans Au nom de la loi, où il incarnait donc un chasseur de primes. Steve McQueen.
Steve McQueen, donc le père de Chad McQueen qui nous a donc quitté. Manuel, tu voulais dédier ces infos à cet acteur. On te retrouve, Manuel, dans quelques instants pour parler d'une sortie ciné avec Agnès Jaoui. C'est un peu ton actrice phare, hein.
Ah bah, j'aime beaucoup Agnès Jaoui, c'est une actrice, c'est une scénariste.
Un petit crush sur elle.
Ouais, scénariste, réalisatrice. J'ai eu la chance en plus de le rencontrer et de l'interviewer. Et voilà, c'est une femme également qui a beaucoup de talent, qui chante et dont le prochain album d'ailleurs est attendu la semaine prochaine. Hein. Le prochain album va sortir dans les bacs. Pour la première fois, elle chantera en français. Donc voilà, je vais parler de Ma vie, ma gueule, ouais, de ça. Sophie Filière avec Agnès Jaoui dans le rôle principal.
Et on te retrouve dans quelques instants, Manuel, à tout de suite. En attendant, on va faire un tour du côté des sorties ciné du Mazarin pour cette semaine avec 5 nouveaux films à l'affiche. Générique.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et 5 nouveaux films, hein, je vous le disais, à l'affiche de votre ciné Mazarin cette semaine, et en plus des programmations jeunesse et avant-première. On va y revenir. Je vous rappelle qu'on vous fait gagner vos places, hein, sur BAC toutes les semaines. Une place pour vous permettre d'aller voir le film de votre choix. Ça se passe sur nos réseaux sociaux. Vous avez rendez-vous sur Facebook et Insta BAC FM. Une ou un gagnant dans quelques instants. Un film d'horreur, un film d'animation, une comédie. Voilà ce qu'on retrouve cette semaine, avec également un drame historique, un conte de Simon Moutaïrou sur le marronnage basé sur des faits historiques. C'est le premier long métrage du cinéaste franco-béninois qui met en avant la résistance à l'esclavage en France au XVIIIe siècle. Il nous emmène en fait dans l'actuelle île Maurice, au cœur d'une population d'esclaves originaire du Sénégal qui a vraiment existé en 1759 sur l'île de France. À l'époque, Mati et son père Massamba deviennent des nègres marrons, des esclaves en fuite. Sur leurs traces, Madame la Victoire, qui est jouée par Camille Cotin, engagée par leur propriétaire Eugène Larsenet, qui est incarné par Benoît Magimel.
À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets.
Première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va ?
Reste ici !
Hamgaman. Hamgaman Magan.
Je cherche ma fille.
Je
Dans Ni chaîne ni maître, Simon Montaïrou filme des êtres humains qui risquent tout pour leurs droits. Un sujet qui traverse encore les siècles, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Et puis il y a aussi à la programmation cette semaine un film d'animation très sympa. Alors il dure à peine une heure, hein. C'est assez rapide, c'est très coloré, beaucoup de couleurs qui nous ramènent à l'adolescence. En fait, avec Fujino, c'est une ado surdouée qui a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. C'est en fait une autrice de manga. Voilà, un mangaka, c'est un auteur, une autrice de manga.
Merci pour cette précision.
Tu ne le savais pas, les types, peut-être ?
Si, parce que j'ai le plaisir de faire la technique des émissions manga sur Bac FM.
Ah, mais oui, effectivement, qui parle beaucoup, j'imagine, de mangaka.
Exactement.
Et Kyomoto, en fait, elle, en revanche, qui est aussi une mangaka, reste dans sa chambre et pratique sans relâche donc le même art que Fujino. Alors, c'est des noms comme ça parce que c'est japonais, bien sûr, vous l'aurez compris. De jeunes filles d'une même ville de province, donc, qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir pour un lien indéfectible, c'est une jolie fable. Et c'est à retrouver dimanche, c'est à 18h30 et c'est en version originale sous-titrée. C'est une projection exceptionnelle en fait, il n'y en aura qu'une seule pour ce film donc, qui sort cette semaine.
Je pense qu'il y aura du monde hein, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs, de fans de manga dans le coin.
Mais à l'image hein, du cinéma Mazarin qui propose de plus en plus hein, de films pour les fans de japonais, même quand parfois ces films ne sont pas forcément... facile à regarder des fois en français parce que là c'est une version originale, mais il le propose quand même des fois, séance exceptionnelle. Ça permet à ses fans de cet univers là de pouvoir aller au Mazarin. On va continuer avec un film pour rire, la comédie française de cette semaine avec Julie Delpy. Mais avant, on va faire un détour côté frisson avec ce lancement des années 80, Letty, que je te propose. C'est un film d'épouvante qu'on retrouve au Mazarin également.
Ouais, c'est Speak No Evil. Alors, ça parle de quoi, Speak No Evil ? Eh bien, on a les Dalton, une jolie petite famille américaine qui est conviée à passer le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique qu'ils ont rencontrée lors de leurs dernières vacances en Italie. Un séjour qui s'annonce idyllique, mais qui va rapidement se transformer en atroce cauchemar. Leurs gentils hôtes ne vont pas tarder à montrer leur vrai visage. Alors, c'est un film qui a été réalisé par le Britannique James Watkins, à qui on doit notamment les films Hidden Lake ou encore La Dame en Noir. C'est un film avec Daniel Radcliffe, La Dame en Noir. Je sais pas si tu l'as déjà vu.
Oui, bien sûr. Ah, si, si, tout à fait.
Très bon film, hein, un peu gothique et tout.
Oui, oui, oui.
Alors, Speak No Evil, c'est pas du tout dans cette veine-là. C'est un film qui sort tout droit de chez Blumhouse Productions, hein, la nouvelle usine à films d'horreur. Tous les films quasiment sortent de chez eux. Et en fait, il s'agit d'un remake d'un film danois du même nom qui est sorti en 2022, alors qu'a pas beaucoup fonctionné par chez nous. Et là, dans cette version anglo-américaine, eh bien, au casting, on retrouve entre autres James McAvoy.
Oui, ok.
C'est le professeur X dans X-Men. Et puis ceux qui aiment les films d'horreur l'auront reconnu dans le rôle de Bill Denbrock adulte dans Saw 2. Voilà, alors pour l'instant, les retours sur Speak No Evil, ils sont plutôt positifs. Donc pourquoi pas aller découvrir ce petit film qui est dispo au ciné Mazarin.
À partir d'aujourd'hui, juste avant de retrouver ta pause musicale, Letty, que tu vas nous proposer, on va se marrer un petit peu. C'est ce que je vous disais avec la comédie de la semaine. C'est le dernier film de Julie Delpy qui raconte l'affolement d'un village breton à l'arrivée d'une famille de réfugiés syriens, alors qu'ils attendaient en fait des Ukrainiens. Casting 3 étoiles hein, avec Sandrine Kimberlin, Yaindia Air, Laurent Lafitte, Les Barbares. Le film a été présenté en ouverture du festival francophone à Angoulême. Bande annonce.
Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal. Hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé.
C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. Hein. J'ai voté pour qu'on les accueille.
Hervé Rioux, adopté à l'unanimité.
Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés.
Excusez-moi, il faut que je vous parle.
C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, mais il n'y en a plus.
En fait, ce sont des Syriens.
Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
Non, non, de Syrie.
T'as trois femmes, le gars ?
Mais non, je t'ai dit, il y a aussi sa sœur et sa fille.
J'ai aucun problème, hein. Arabe,
c'est pas une insulte, hein.
Non, ça vous filmez pas, hein. Non.
Mais qui a
non.
Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Omar Sy.
Le racisme, ça vient de la peur.
Bonjour.
La peur qu'on leur prenne leurs femmes.
Pourquoi tu fais coucou, toi ?
Quoi ? Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici.
Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon, moi je mange que ça.
Ça,
à vous ?
Vous la voulez ?
Un euro.
Quoi ?
Un euro, putain, fils de pute, un euro.
J'en ai marre d'être habillé avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres.
Si t'étais Mère Teresa, ben tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là.
Tu t'es déjà imaginé ce que c'est ? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte.
Faut créer une dynamique autour des faillades.
C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi.
Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne.
Mais t'es alsacien.
Les barbares, c'est très drôle, c'est réussi avec des personnages très très bien écrits. Derrière la légèreté de cette comédie, en fait, Julie Delpy, bah, elle en profite quand même pour pointer la peur de l'immigré, le racisme ordinaire aussi, mais aussi la lourdeur de l'administration française, ce qui fait que ça parle plutôt à tout le monde pour le coup. Ça s'appelle Les Barbares et je vous invite à foncer au Mazarin voir cette comédie drôle et finalement bah, utile aussi quand même.
Tout à fait.
C'est peut-être ce qui ira voir notre gagnant ou gagnante, on ne sait pas d'ailleurs.
Ah, mystère, mystère.
Dans quelques instants, on va le découvrir avec le Ciné Mazarin. On vous offre toutes les semaines votre place de ciné. On en parle dans quelques instants, juste après quoi, Letty ?
Bah écoute, on va écouter Joy Division avec Disorder qu'on a pu entendre dans The Crow, le remake du film sorti cet été.
Et on revient juste après. Vous êtes sur Bac FM, bienvenue.
Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
De retour sur Bac FM, bienvenue, vous êtes dans Action, votre émission ciné. Je m'appelle Théo, je vous accompagne avec Letty sur votre trajet, dans votre journée de taf ou chez vous tout simplement. Dans tous les cas, restez avec nous parce que dans quelques instants, je vous offre votre place de ciné en partenariat avec le Ciné Mazarin, une place chaque semaine. Et ça commence tout à l'heure, une avant-première événement avec la présence d'un réalisateur. On va en parler aussi et puis toute la programmation jeune public à venir au Mazarin. Juste avant, on retrouve Manuel qui a choisi de nous parler d'une sortie avec au casting Agnès Jaoui, ça s'appelle Ma vie, ma gueule.
La nuit, je brille.
Salut Barbie.
J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature ?
Vous êtes Catherine Philippe ?
Non, alors c'est l'inverse, hein. C'est Philippe Catherine.
Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours tes cigarettes de connasse ?
T'es sûr que ça va, Barbs ?
J'ai jamais dit que ça allait.
Comment vous vous sentez ?
Moche. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre.
Ah bon ?
Faut que je reprenne goût à la vie. Vous allez me laisser partir seule, finalement.
Tu sais que ça va aller.
This way.
Oh, no, 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 you want to go that way.
You look like a scoot.
You look like a movie star from the 50s.
fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant.
Ma vie, ma gueule, le long métrage posthume de Sophie Fillière. Manuel, de quoi nous parle ce film avec Agnès Jaoui donc ?
Eh bien, mon cher Théo, c'est un long métrage posthume réalisé par Sophie Fillière, qui était une figure du cinéma d'auteur français, qui nous a quittés l'année dernière à 58 ans. Ma vie, ma gueule, donc le montage a été terminé après son décès par ses enfants. Et on peut le dire, c'est en fait un récit extrêmement autobiographique. La réalisatrice a mis beaucoup de choses de sa vie personnelle. On suit le destin d'une quinquagénaire dont on sent qu'elle perd pied. Elle commence à prendre de la distance avec la réalité. Alors c'est un portrait très baroque, puisque Agnès Jaoui incarne une employée d'agence de publicité, mais qui n'est pas vraiment passionnée par les produits dont elle devrait faire la promotion. C'est plutôt quelqu'un qui aime les poésies absurdes qu'elle va écrire. Et puis, dans son quotidien, elle a des rapports vraiment surprenants avec ses congénères, et notamment avec son psy et ses enfants. Alors, il faut dire que d'ailleurs, le personnage du psy dans le film est incarné par le propre psy de Sophie Fillière.
Ah oui, d'accord.
Voilà, qui joue son propre rôle. Elle va se retrouver, parce que, comme je le disais, elle perd un peu pied avec la réalité, donc elle va se retrouver en hôpital psychiatrique, avant finalement de s'embarquer pour une espèce de d'échappée, voilà, outre-Manche, avec une aventure dont je ne révélerai pas la suite. Voilà, si on peut un peu planter le décor de ce début de récit pour Ma vie, ma gueule.
Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, Manuel ?
Ben, moi, j'ai été sensible au charme dégagé par ce récit fortement autobiographique, parce que la réalisatrice, elle nous livre peut-être son film le plus personnel. Il y a une mise en abîme, voilà, avec des choses très intimes. Et puis ce personnage qu'incarne Agnès Jaoui, qui s'appelle Barbery Bichette, et que beaucoup de ses proches dans le film appellent Barbie, c'est à la fois le double de la réalisatrice, mais c'est en même temps un personnage aussi à part entière. Et c'est vrai que c'est, pour Agnès Jaoui, c'était une drôle de performance à réaliser, ouais. Parce que elle portait à la fois les robes et les bijoux personnels de la réalisatrice, et elle reproduisait les attitudes. Il y avait à la fois du mimétisme qu'elle devait reproduire dans son jeu. Donc c'est à la fois émouvant, drôle, mais je suis aussi conscient du fait que ça peut déstabiliser voilà, le grand public dans ce jeu, dans ce personnage qui est lui-même très déroutant, et comme était d'ailleurs Sophie Fillière aussi dans la vie. Donc il y a des séquences voilà, qui sont assez impressionnantes, mais il y a beaucoup de mélancolie. On sent que c'est un personnage aussi, enfin c'était une femme tourmentée, mais il y a des moments absolument remarquables de poésie avec Philippe Catherine, qui joue son propre rôle dans le film. Et au début et à la fin du film, il y a deux rencontres entre Agnès Jaoui et Philippe Catherine qui sont vraiment qui valent le déplacement, parce qu'elles sont à la fois très drôles, très émouvantes, et puis en rempli de poésie, c'est forcément avec ces
avec Philippe Catherine, c'était obligé, ouais, bien sûr.
C'était obligé avec Philippe Catherine, et puis en plus avec Agnès Jaoui, qui est absolument formidable et qui livre une prestation de très très haut niveau dans ce film Ma vie, ma gueule.
Et c'est le film que tu avais choisi de présenter, sorti ciné de cette semaine. Manuel, merci beaucoup, on te retrouve mercredi prochain, bien sûr.
Oui, avec grand plaisir, hein, pour un nouveau choix cinématographique, et puis quelques petites nouvelles de l'actu ciné que j'aurais pu dénicher d'ici là. Donc en attendant, allez au cinéma, le vrai sur grand écran, hein, comme on dit, comme j'ai plaisir à le répéter comme un petit gimmick, et bonne séance à tous et à toutes. Voilà.
Merci Manuel, à mercredi, salut. On continue, nous, de notre côté, avec d'autres séances axées, cette fois-ci jeune public. Billy, le hamster cowboy, ça dure 1h07. C'est vraiment axé limite premier ciné. Hein. Il y a des séances aujourd'hui, samedi et dimanche. Ça te fait rire, Letty, ça?
Oui, parce que j'ai eu un hamster dans mon enfance. C'est pour ça que je connais bien l'animal.
Et t'es cowboy,
un petit peu.
Il s'appelait comment?
Il s'appelait Que Note.
D'accord. Ok. Bon, bah voilà, c'est une petite info que vous saurez.
Qui n'intéresse personne.
Alerte info, l'hamster de Letty s'appelait Que Note. Donc c'est voilà, ce genre de film, ça permet aussi au plus jeune public d'avoir une première approche d'une salle de deux ciné. C'est vraiment top. Comme les premiers ciné qui proposent cette semaine encore d'ailleurs un quatuor de vache. Ça dure 43 minutes, c'est plus rapide. T'avais pas de quatuor de vache, toi, Letty?
Non,
ça t'avais pas. Du côté des avant-premières, il y a un événement aussi. C'est samedi soir à 19h45. C'est Le Monde à l'envers, 12e réalisation de Nicolas Vanier, qui signe ici une comédie tournée à côté dans Lyon, c'est pas loin, avec Michael Youn, Yannick Noah, Barbara Schulz au casting. Le Monde à l'envers dénonce le réchauffement climatique avec humour. Bande annonce.
Hello la team, on n'a pas le temps de boire un café aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, Tokyo?
2 millions de bénéfices sur la journée.
C'est qui le patron?
Toute la France touchée par la sécheresse.
Y a plus rien, y a plus de téléphone, plus d'internet, plus rien.
Allez, tu traînes là, avance.
Ta gueule.
Ah bah là, on avance bien.
Désolé de débarquer comme ça à l'improviste, mais je suis le nouveau propriétaire.
De quoi?
De votre exploitation. Allez, j'ai du boulot, moi.
Va falloir bosser avec les autres, hein. Si tu veux rester ici.
Travaille dans les champs, c'est mon rêve.
Ouais, bah attends de sentir la bouse, tu vas voir.
Salut, ma Juju.
Il a encore l'électricité?
Grâce au soleil et au vent.
Glandeur avec ses moulins à vent.
Bienvenue au rêve général.
On a de l'eau, un petit peu d'électricité, on peut survivre.
Moi, je veux vivre. Je veux de l'eau chaude dans la douche, je veux la clim, je veux mes montres à mouvement tourbillon, tu comprends ça?
J'en peux plus de toi. Mais ouvre les yeux sur ce qui se passe!
Culture non-stop, voilà où on en est, quoi. Des paysans qui peuvent plus nourrir personne.
Ce soir, c'est soupe de blettes.
C'est dégueu, les blettes.
Pardon.
C'est la cote du jour où j'ai décidé de miser à la baisse. Quoi, quand ça baissait, tu gagnais? En quel monde tu vivais?
On vivait pas.
Trois semaines sur Dreamcast et Pagnard, en sorte de monsieur jamais content, là. Je suis chez moi, ici. Mesdames et messieurs, rien ne s'achète, tout s'échange.
C'est qui m'impressionnerait presque, le Parisien. Alors, devenir des paysans.
On dit plus exploitation agricole?
Ça suffit d'exploiter.
Le Monde à l'envers, avant-premier événement en présence du réalisateur Nicolas Vanier. C'est samedi à 19h45 et on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs très rapidement sur BAC.
Ouais, tu nous réserves une belle surprise, je crois.
Bah ouais, Nicolas Vanier qui sera mon invité semaine prochaine exactement. Je pars à sa rencontre dimanche matin. De bonne heure.
Et de bonne humeur.
Et de bonne humeur. Je me lève pour vous le dimanche matin. Il reste quelques places hein, d'ailleurs pour aller voir l'avant-première. N'hésitez pas à y aller. Je le répète, samedi à 19h45. Juste avant de retrouver ton film du grenier, Letty, pour terminer cette émission, eh bien, nous allons offrir une place de ciné à un auditeur parmi vous qui s'est inscrit. Rien de plus simple hein, pour ça. Sur nos réseaux Insta et Facebook, vous nous dites quel film vous iriez voir si vous gagnez. Et bim, inscription lancée. Bamos, c'est toutes les semaines qu'une personne parmi vous aura le droit à cette place offerte par le ciné Mazarin et BAC FM. C'est une première gagnante aujourd'hui et elle s'appelle Anne-Laure.
Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi.
Quoi?
Gagne. Gagne.
Mais bon Dieu, on a le feu vert. Saute dessus.
Salut BAC FM, c'est Anne-Laure. D'abord, je voulais vous remercier pour ce super jeu. Et si j'ai la chance de gagner, j'irai voir Beetlejuice, Beetlejuice.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Les affaires reprennent. On envoie la sauce.
Un film dont j'ai entendu parler, entre autres, dans Action. Merci, à bientôt.
Quel kiff, sans déconner, hein. Franchement, Anne-Laure qui repart donc
bravo elle.
Avec une place offerte par le ciné Mazarin et BAC FM pour Beetlejuice, Beetlejuice, le deuxième volet. Et c'est peut-être vous, mercredi prochain. Alors inscrivez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, BAC FM. Letty, t'es jalouse, je pense.
Ouais, franchement, j'irais bien voir Beetlejuice avec elle.
Eh bah écoute, peut-être, hein, contacte.
Peut-être qu'elle va m'inviter, on sait
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Contacte, Letty, contacte. Bon, en attendant, tu reviens de ton grenier avec le film de ton grenier, Letty. Tu vas nous parler de Batman et de Tim Burton, je crois.
Oui, et tu sais pourquoi?
Non.
Mais parce qu'en fait, le 13 septembre dernier, donc deux jours après la sortie de Beetlejuice, Beetlejuice, justement, eh bien, le film Batman de Tim Burton fêtait ses 35 ans en France.
Ah d'accord,
c'est
anniversaire. Ouais.
Effectivement, le 13 septembre 89 que l'homme chauve-souris faisait son arrivée fracassante dans les salles obscures françaises, accompagné d'une promo marketing absolument gigantesque. Je m'en souviens encore, moi j'avais le pull. et le Sweet Batman, et je regrette de l'avoir jeté, hein, vraiment. Alors, il faut dire que si de nos jours, les films de super-héros, bah, il en sort tous les 4 matins, à l'époque, mis à part Superman qui avait connu la gloire au cinéma une dizaine d'années plus tôt, ce genre de film, bah, ça courait pas les rues, hein, il y en avait pas souvent. Alors imaginez le bonheur des fans de comics quand Batman a déboulé au cinoche, même si certains doutaient pas mal de la prestation de Michael Keaton dans le rôle du héros. Keaton qui s'avérera pourtant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Batman, ouais, sur grand écran.
Il y a beaucoup de débats, hein, de,
ouais,
qui
y a
été
beaucoup
le...
de débats, ouais, personne n'est d'accord.
Hein. À l'image de qui a été le meilleur Joker, qui a été le meilleur Batman.
Alors,
là, c'est pareil.
Par contre, là, on peut pas nier qu'il y a eu, pour le Joker, une prestation mémorable de Jack Nicholson.
Ouais.
Et puis aussi de Kim Basinger, on n'en parle jamais, mais elle incarnait la plantureuse Vicki Vale. Alors, 35 ans plus tard, quel est l'héritage du Batman de Tim Burton ? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai descendu ce film culte de mon grenier. Mais avant toute chose, bande-annonce.
C'est toi, mon petit sucre ?
Oui, qui êtes-vous ?
C'est moi, ton petit sucre.
Mais qui êtes-vous ?
Je suis Batman.
Ah !
D'où est-ce qu'il sort, ces fantastiques jouets ?
J'ai vraiment une vie très...
Oh !
Complexe.
Monstres et les terrorise. Ils vont voir ce qu'ils vont voir avec moi. J'aimerais savoir, mon ami, as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ?
Alors Gotham City, c'est une ville qui est rongée par le vice et la corruption, mais voilà, depuis quelques temps, une rumeur enfle dans la cité, un justicier vêtu d'une combinaison de chauve-souris sèmerait la terreur chez les malfrats. À chaque fois qu'un crime est commis, il apparaîtrait pour leur faire la misère. Alors bien évidemment, la police refuse de croire à ces idioties, quant aux médias, bah, ils demandent d'avoir des preuves justement pour savoir si c'est vrai, et ça tombe bien, le reporter Alexander Knox et la photographe Vicki Vale, ils vont enquêter sur cette mystérieuse affaire, et pour ce là, eh bien, ils vont parvenir à se faire inviter à une grande soirée réunissant le Gotha de Gotham qui se déroule dans le somptueux manoir du milliardaire Bruce Wayne, un homme séduisant et plutôt discret au premier abord dont le charme ne va pas laisser insensible la belle Vicki Vale. Alors, la jeune photographe, à ce moment-là, elle est loin de se douter qu'elle vient de rencontrer Batman en personne. Batman qui va d'ailleurs bientôt devoir affronter un ennemi de taille, le Joker, qui n'est autre que Jack Napier, le bras droit du chef de la pègre de Gotham City que le super-héros a défiguré en le laissant tomber dans une cuve d'acide dans l'usine désaffectée. Et la vengeance du Joker, elle sera terrible puisqu'il va terroriser la population de Gotham City en empoisonnant chimiquement des produits du quotidien comme le déo, les maquillages, etc.
Tim Burton.
Ouais, voilà. Une fois que tu les utilises, en fait, tu rigoles jusqu'à ce que mort s'en suive et qu'il y ait le sourire du Joker qui s'affiche sur ton visage. Alors, il y a un seul homme, hein, qui sera capable de mettre fin à cette folie meurtrière, c'est bien évidemment Batman. D'autant que l'homme chauve-souris va découvrir que le Joker est à l'origine de son plus grand traumatisme d'enfance.
Et c'est avec cette version de Batman, hein, que Tim Burton il va clairement dépoussiérer l'homme chauve-souris.
Ah ouais, tout à fait. Hein. D'ailleurs, le Batman de Tim Burton il va sortir en 89, donc pile poil pour le 50e anniversaire de notre homme chauve-souris, dont la première parution dans un comic book datait de 1939. Alors c'est un super-héros qui a été créé sous la plume du dessinateur Bob Kane, hein, à l'origine, et qui va être adapté à la télévision dès les années 60, époque où il va également être adapté une première fois au cinéma avec Adam West dans le rôle principal. Et le résultat, ben, c'est un film qui est kitsch à souhait, qui a extrêmement mal vieilli et qui a rien à voir avec le Batman de Tim Burton, dans lequel on retrouve toute la poésie gothique, macabre et carnavalesque du réalisateur, qui va offrir aux spectateurs ce Gotham City assez incroyable, je trouve, et puis aussi qui va offrir des traits inédits à ces deux personnages principaux, avec d'un côté un Batman sombre et mélancolique, et puis de l'autre un Joker extravagant et totalement déjanté avec ses cheveux verts et son costume violet. Le Batman de Tim Burton dépoussière donc effectivement totalement l'homme chauve-souris, et puis aussi son univers à travers un film où vont se mêler l'humour et la noirceur, et c'est un film qui, je pense, sera charnière pour tous les films de super-héros qui vont suivre.
Et c'est la Warner qui avait choisi Tim Burton, et pourtant la réalisation avait failli lui passer sous le nez à Tim Burton.
Ouais, exactement, parce que Burton, il avait été choisi pour réaliser Batman dès 85 après le succès de Pee-wee's The Big Adventure, et ensuite ça a pas mal traîné le projet, et il en a eu marre d'attendre, Burton, du coup il s'est lancé dans un autre tournage, celui de Beetlejuice. La Warner, elle a donc dû attendre qu'il ait terminé Beetlejuice pour débuter le tournage de Batman, ce qui aurait pu lui coûter d'être remplacé par quelqu'un d'autre, là il a joué avec le feu, et heureusement le succès au box-office de Beetlejuice, et bien ça va conforter la Warner sur son choix, et Batman sera le premier film à gros budget de Burton.
Et Burton qui va amener avec sa patte et sa réalisation un de ses acteurs fétiches aussi.
Bah oui, à l'époque, un de ses acteurs fétiches, c'est Michael Keaton, qui va donc passer du rôle de l'affreux Beetlejuice à celui du ténébreux Batman, c'est un sacré grand écart,
ouais.
Et un choix de casting qui sera extrêmement décrié à l'époque, personne n'imaginait Keaton crédible dans le costume de Batman, il le trouvait trop comique. Et pourtant, il a contribué à le rendre mythique, ce personnage. Un costume qu'il a depuis transmis successivement à Val Kilmer, George Clooney et Christian Bale. Et je sais pas si t'as déjà fait attention, mais moi je trouve que Michael Keaton dans Batman, il ressemble de façon étonnante à Julien Lepers.
Ah oui, si, ouais, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Mais on l'a déjà vu passer, ça, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, cette ressemblance entre les deux.
Ouais.
Un petit peu avec José Garcia aussi, et je sais plus quel acteur, des fois, il y a des traits. Le Joker de Jack Nicholson, aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, va laisser une marque indélébile à l'image, un petit peu, des Batman, lequel est le meilleur Joker, en plus Joker d'actualité, qui
mais
va
oui,
ressortir.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que Nicholson, il est démentiel dans le rôle du Joker, il l'incarne à la perfection, et on en trouve indéniablement des traces dans le jeu de ceux qui vont l'incarner ensuite, alors qu'il s'agisse du regretté Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008, que j'ai détesté moi au passage, enfin pas le Joker mais le film, et puis bien sûr Joaquin Phoenix qui lui aussi est incroyable dans le film Joker sorti en 2019, et t'as raison, la suite elle est très attendue, Joker Folie à 2, et d'ailleurs elle sort dans 15 jours, donc c'est très bientôt.
Et d'ailleurs, Batman de Tim Burton, c'est aussi une bande-son culte.
Eh ben oui, signée par son compositeur fétiche, qui n'est autre que Danny Elfman. Et c'est une musique qui est devenue indissociable du personnage de Batman. Il va s'agir de la troisième collaboration entre Burton et Elfman, qui avait déjà auparavant signé la musique de Pee-wee et de Beetlejuice. On revient toujours à ce film-là. Et puis, outre la musique d'Elfman...
Encore avec une... Désolé, je te coupe,
oui,
mais encore une belle bande-son, d'ailleurs,
mais,
pour le 2, hein, Beetlejuice,
mais,
Beetlejuice.
Ouais. Non, mais il est absolument génial, ce Danny Elfman. Et il va pas être tout seul sur la musique de Batman, puisque le film va sortir accompagné de la chanson Bat Dance de Prince,
qui
va devenir un des tubes de l'été 89. En France, par exemple, il va se hisser 5e au top 50.
On pouvait que s'y attendre, Batman qui aura une suite, du coup ce sera en 92.
Bah ouais, devant un tel succès, pas réaliser une suite, c'était impensable pour Tim Burton. Il va donc tourner Batman 2, le défi, toujours avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, mais avec un nouveau super vilain à affronter. Et il va s'agir du Pingouin, qui sera campé par un Danny DeVito, lui aussi inoubliable. D'ailleurs, Batman le défi, c'est une suite qui est brillamment réussie, dans laquelle Burton s'autorise, je trouve, encore plus de folie, il va encore plus loin que dans le premier. Et tout comme son prédécesseur, il a acquis un statut de film culte. Et en plus, vous pouvez le mettre dans votre sélection de films de Noël, puisque l'histoire se déroule en cette période de l'année. Voilà.
Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce film, Laetitia?
Eh bien, écoute, Batman et Batman 2, ils sont tous les deux disponibles sur Max.
Ah ouais, d'accord.
Bah ouais, je suis désolé. Alors, profitez, en ce moment, il y a 7 jours gratuits.
Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Tu prends les 7 jours, tu te cales 2 jours dans les 7 jours où tu regardes les Batman.
Voilà, puis après, tu te désabonnes.
En avant la musique. Voilà, belle technique de rat, Laetitia. Merci beaucoup.
De rien.
Le prochain rendez-vous sur BAC, maintenant, c'est à midi, avec Gaëtan, qui vous propose Culture en Vrac, toutes les infos de la Maison de la Culture. Cette émission, vous pouvez la retrouver, bien évidemment, en podcast sur bacfm.fr. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour gagner votre place de
bravo
ciné.
À la gagnante.
Et ouais, bravo à Anne-Laure. Allez vous inscrire, Bac FM, Facebook, Insta, le ciné Mazarin et Bac FM vous offrent votre place de ciné chaque semaine pour aller voir vos films préférés. Vous vous inscrivez par message, vous nous dites quel film vous voulez aller voir, c'est l'inscription. Et moi, Tété, paf, je vous appelle, salut, ça va, t'as gagné ta petite place, à plat en avant la musique. Merci Letty.
Merci Théo.
Je pars en steak, faut que j'arrête. Allez, à plus, salut.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.